En fait, ce qui se passait dans les années 2000, c'était que le parti nationaliste du Bangladesh, hein, le BNP, était au pouvoir, allié à la Jamaat islamique. Donc c'était un autre contexte politique, au sens où certaines composantes du pouvoir ont laissé se développer certains groupes radicaux à l'époque. Aujourd'hui, on n'a pas la même situation dans le sens où le parti qui est au pouvoir, il est censé être justement plutôt laïque, en tout cas revendiquer plutôt des idées sécularistes. Le gouvernement actuel a promis, disons, de régler les comptes et de juger les gens qui étaient soupçonnés d'être des criminels de guerre lors de la guerre d'indépendance. Et ça a été, je dirais, un total règlement de compte vis-à-vis du principal parti islamiste au Bangladesh, c'est-à-dire la Jamaat islamiste. On est dans une situation plutôt d'une opposition qui n'a plus l'occasion de s'exprimer, d'un parti islamiste qui a été complètement décapité, et donc beaucoup de jeunes qui faisaient partie, par exemple, de la branche étudiante de ce parti islamiste, qui se sont retrouvés sans leader du jour au lendemain, et qui peut-être se sont réalignés, je dirais, avec des groupes ou des mouvements plus radicaux.
À l'opposé de l'échiquier politique, une autre partie de la jeunesse se mobilise, elle, pour défendre la laïcité, autour de blogueurs notamment.
Le mouvement des blogueurs, il est né justement après l'arrivée au pouvoir de Sheikh Hasina, de la Ligue Awami, hein, avec ce qu'elle portait comme espoir de revenir à cet esprit laïque de la libération, de l'origine du Bangladesh, c'est vrai. Mais simplement, ces gens qui donc ont lancé ce qu'on appelle le mouvement de Shahabag, hein, qui est une place publique à Dhaka où ils se sont rassemblés, où ils ont fait un gros mouvement, à la suite des révolutions arabes d'ailleurs, ça a commencé surtout en 2013, ces gens-là ont été aussi désenchantés de la politique du gouvernement. C'est-à-dire que pour eux, le gouvernement de la Ligue Awami n'était pas assez ancré à gauche dans les idées laïques et d'une volonté de séparation du religieux et du politique. Donc ces gens-là vont beaucoup plus loin que le gouvernement actuel. Le gouvernement a lâché cette aile gauche, a lâché cette jeunesse dans le sens où il a renoncé vraiment à protéger ses blogueurs en disant « bon, si vous faites des attaques contre la religion majoritaire, donc l'islam, si vous êtes à ce point militant d'un point de vue athée et donc allez contre, je dirais, le mouvement général de l'opinion publique, eh bien, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même. » Et le gouvernement ne cherche pas à protéger ces blogueurs-là.
Donc finalement, que ce soit cette jeunesse militante, blogueuse, ou cette jeunesse musulmane radicale, aucune jeunesse ne se sent représentée.
Exactement. C'est exactement ça le problème. C'est que depuis 2009, mais bon, c'est un mouvement général, hein, depuis le retour des civils au pouvoir au Bangladesh, depuis 2009, le système est de plus en plus verrouillé. Le parti au pouvoir, actuellement, s'est arrangé pour affaiblir au maximum l'opposition, faire que, aux élections, la victoire soit quasiment gagnée d'avance, hein, ce qui s'est passé en 2014, lorsqu'il y a eu la deuxième élection qui a prolongé le mandat de la Ligue Awami, une élection où, en fait, il n'y avait pas d'opposition, hein, clairement, l'opposition était absente de l'élection. En fait, la Ligue Awami tente de s'imposer quelque part comme parti unique. Alors on n'est pas encore dans un état de dictature, mais on est dans un état quand même où l'opposition et tous les partis d'opposition ont été très très affaiblis. Par ailleurs, la Ligue Awami, étant satisfaite de sa capture du pouvoir, n'a pas vraiment de volonté ou d'intention de représenter ces nouvelles tendances, ces nouveaux mouvements qui se passent dans la jeunesse, en particulier dans la jeunesse étudiante, jeunesse consciente, je dirais conscientisée. C'est justement cette jeunesse-là qui est de plus en plus déçue par l'expérience du pouvoir de la Ligue Awami et les promesses non tenues.
Mais en s'attaquant aux minorités, les groupes islamistes visent également l'image modérée du pays.
Alors ça, c'est une stratégie qui remonte à une vingtaine d'années au Bangladesh. Il y a une époque où, lorsque Bill Clinton était au pouvoir aux États-Unis, où le Bangladesh était brandi quelque part comme l'exemple modèle de démocratie musulmane modérée. Je dis ça entre guillemets parce que c'était l'expression de Bill Clinton. Il cherchait un exemple dans le monde musulman d'un système qui fonctionnait relativement bien avec justement des partis non religieux. Donc, certes, la majorité est musulmane, mais les partis au pouvoir ne cherchaient absolument pas à transformer le Bangladesh en État islamique. Depuis cette période-là, l'intention des gouvernements du Bangladesh, quel qu'il soit, est de défendre cette image à l'international. C'est justement sur ce point qu'attaquent les groupes islamistes qui font de la violence, je dirais, leur instrument d'action. C'est pour affaiblir à la fois le gouvernement et puis en même temps cette image d'un système qui est tolérant, qui fonctionne bien, etc. Et donc pour montrer qu'au contraire, il y a des menaces pour confirmer un peu les peurs à la fois des ambassades mais aussi des médias, etc. sur la possibilité de radicalisation de ce pays, que je ne pense pas du tout.